Vous avez 24 minutes dans une journée.
Tout savoir en 24 minutes.
Pour s'informer et comprendre en 24 minutes, ici Mario Dumont, en compagnie de Vincent Dessureau, des studios de Cube Radio, la station d'affaires publique de Québecor. Voici Tout savoir en 24 minutes.
Tout savoir en 24 minutes.
C'est un verdict très attendu qui est tombé dans les dernières heures. Le tueur de l'Halloween, Carl Girouard, qui est coupable et coupable de meurtre prémédité. C'est le jugement rendu par les 11 jurys, donc décision unanime. Jugeant qu'il était donc sain d'esprit le 31 octobre 2020 lorsqu'il a enlevé la vie à François Duchesne et Suzanne Clermont, en plus de faire plusieurs blessés. On sait qu'il a été accusé également de 5 tentatives de meurtre. Il est coupable en gros sur toute la ligne, là, au plus grave chef d'accusation. C'est quand même 5 jours de délibération qu'a repris le jury pour pouvoir passer à travers les différents témoignages, surtout d'experts. On sait que c'était central hein, au centre de cette décision-là, des experts qui avaient des visions assez opposées de la culpabilité de Carl Girouard. On sait, là, on a rejeté donc la thèse du délire psychotique où on disait du côté de la défense qu'il y avait une non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux. Mais ce qu'on est visiblement cru, c'est davantage la théorie de la couronne qui disait que ça faisait longtemps qu'il prévoyait son coup, que lorsqu'il a quitté Sainte-Thérèse près de Montréal pour se rendre au château Frontenac, ben, il était au courant de ce qu'il allait faire et comprenait.
Mais la couronne a assez bien, tu parles du déplacement, la couronne a assez bien construit ou déconstruit l'autre idée, mais là, tu sais, en véhicule, là, il respectait les règles. Il y a un code de la route au Québec. C'est le bien, entre guillemets, c'est le bien de...
Tu comprends qu'un feu rouge...
Ben, tu pourrais frapper quelqu'un, blesser...
C'est un complet délire psychotique.
Ouais, mais tu pourrais dire que tu le fais par habitude ou que tu le fais par un peu par mécaniquement, là. Mais là, lui-même, il disait, là, ben non, le bon Carl, il sait comment conduire son... Tu sais, lui-même, Girouard, ils l'ont fait parler, là, du bon Carl, de l'autre Carl, que le bon Carl, lui, conduit son véhicule. Mais je pense que pour le jury, tu sais, ouais, mais il fait le bien, là, il fait ce qui est correct. Là, tout à coup, il se met à tuer des gens, mais il saurait pas que ça, c'est...
Ouais, et on disait, pour ressortir d'un délire psychotique, généralement, c'est avec la médication, ça va être à l'hôpital. C'est pas pendant l'acte, parce qu'il disait au moment là, des meurtres, il s'est rendu compte que ça faisait pas de sens.
Ouais, il a hésité à en faire d'autres, de recommencer.
Et ça, c'est signe que t'es plutôt conscient. Le psychiatre Sylvain Fauché, l'expert de la couronne, qui avait parlé qu'il avait un fantasme malveillant, là, une quête narcissique contre la société qu'il avait rejetée pour se venger et donc voulait magnifier sa différence. On sait qu'il était bon, qu'il avait certaines obsessions pour des jeux vidéo, entre autres. Donc, au moment de la lecture là, du verdict, l'accusé n'a pas réagi lorsqu'il a été déclaré coupable. Je vais vous faire entendre parce qu'il y avait plusieurs membres de famille des victimes, plusieurs victimes elles-mêmes aussi, donc survivants.
Ça veut dire que, dans le fond, depuis lundi après-midi ou mardi matin, il faut que ces personnes-là soient là quasiment tout le temps, ou qui traînent autour, là, qui sont pas loin, parce que...
Qu'on a pris un peu d'avance.
Une heure et demie d'avance.
C'est ça, ouais, qu'on demandait aux partis de se réunir là, à 14h15, finalement à 14h50 qu'on a lu le verdict. Je vais vous faire entendre d'ailleurs la belle-sœur de Suzanne Clermont, qui est peut-être dans les membres de famille, là, celle qui a été le plus là, et qui a pas manqué une journée de procès. Elle était évidemment soulagée. On l'écoute.
Malheureusement, il est trop tard pour Suzanne Clermont et M. Duchesne. Ça ne nous ramènera pas nos êtres chers, mais bon, la société va être protégée et puis vraiment soulagée que le verdict est conforme vraiment à la preuve entendue. C'était d'une évidence, en tout cas pour moi. C'était très difficile, mais je me suis fait un devoir d'y assister tous les jours.
Bon, et là, parlant de réaction très rapide de l'avocat de la défense, Maître Pierre Gagnon, qui s'est dit déçu du jugement, mais qui a déjà annoncé qu'il allait porter le dossier en appel.
Son idée était faite, là.
C'était pas mal fait, je vous le fais entendre aussi.
Écoutez, grande déception. Le verdict n'est évidemment pas aligné avec les arguments qu'on avait soumis au jury. Par ailleurs, les derniers jours nous ont permis de faire une rétrospective de la preuve qui a été présentée. Et je peux d'ores et déjà vous mentionner que j'ai mandat d'aller en appel. Alors, selon nous, il y a des motifs sérieux pour porter le verdict en appel.
Bon, il faut faut aussi comprendre qu'ils ont perdu sur toute la ligne. Alors peut-être que pousser en appel.
Ouais, c'est deux fois meurtre au premier degré coupable, cinq fois coupable de tentative de meurtre sur les autres.
Exact. Alors dans la mesure où tu as perdu au complet, ils ont peut-être pas rien à perdre en ce moment de poursuivre en appel. Alors on suivra la suite des procédures et là il y a la question de la peine.
Ouais, parce qu'il y a deux meurtres là. Oui. Comme Alexandre Bissonnette, ça va être plus qu'un meurtre et le jugement de la Cour suprême dans le dossier Alexandre Bissonnette arrive vendredi prochain.
Oui, elle va donc influencer la peine de Carl Giroir. Ouais, parce que à savoir, est-ce que ce sera 25 ans ou 50 ans?
Parce que si on dit dans le cas Bissonnette, si la décision de la Cour suprême, c'est la loi Harper est anticonstitutionnelle, la limite, c'est 25 ans, que tu aies fait 1, 2, 5, 10, 12, 15 meurtres, la limite, c'est 25 ans, donc tu purges, dans le fond, tes peines d'une façon concurrente. Tes peines, tu purges tes peines en même temps. Ben dans ce cas-là, ça règle le cas. Y a pas, pour lui, il n'y aurait plus de possibilité d'avoir plus que 25 ans aussi. Là. Ça viendrait régler cet aspect-là. Mais bon, quand même, c'est... Les jurys ont travaillé sérieusement. Là, je me mets dans leur peau. Ils ont vu le juge lundi matin, là, au début de la semaine, pour les dernières directives. Je pense qu'ils lui ont reposé une question dans la journée où ils ont demandé de mettre par écrit là,
les recommandations par écrit.
Les recommandations, les verdicts possibles, etc. Et puis après ça, ils sont renfermés jusqu'au verdict.
Ils n'ont rien demandé depuis lundi.
Non,
alors,
non,
bon, on semble avoir fait un travail très sérieux. Un mot sur la variole du singe dont on a découvert pour beaucoup l'existence cette semaine, qui a pris beaucoup de place dans l'actualité. Aujourd'hui, l'Agence de santé publique du Canada a dit se préparer à l'envoi possible de vaccins contre cette infection dans la province. Parce qu'on sait qu'au pays, là, les cas sont au Québec. On parle de deux premiers cas confirmés au Laboratoire national de Winnipeg. Une vingtaine de cas suspects. On sait que c'est à peu près tout à Montréal. Et là, on pourrait donc distribuer des doses d'utilisation de vaccins au Québec. C'est ce que le docteur New a confirmé aujourd'hui.
En Grande-Bretagne, ils ont donné essentiellement des vaccins aux médecins qui travaillent dans des cliniques qui touchent beaucoup les clientèles où les gens se présentent. Donc, est-ce qu'on vaccinerait, je sais pas, à Montréal, il y a peut-être quelques cliniques, l'actuelle...
C'est possible qu'on
vaccinera pas en population, là, en général.
Non, on comprend que ça prend des contacts étroits. Ce que, justement, quelqu'un qui te traite peut avoir, surtout qu'au départ, dans bien des cas, les médecins ne savent pas c'est quoi. Là. Alors, ils peuvent être infectés de cette façon-là. D'ailleurs, pour ce qui est de la variole du singe, aujourd'hui, l'OMS a dit s'inquiéter d'une recrudescence de cas en Europe, disant que les cas pourraient possiblement s'accélérer. C'est ce que l'OMS disait aujourd'hui. Là, il y a des cas dans plusieurs pays d'Europe, dont moins une vingtaine de cas confirmés au Royaume-Uni. Et là, on dit, on arrive dans la saison estivale, il y a des rassemblements, des festivals, des soirées, et on a une crainte alors que les cas augmentent en raison de cette multiplication-là de contacts au Canada, Royaume-Uni, États-Unis, Portugal, France, Suède. Donc, voit des cas se multiplier. Les symptômes, là, je vous rappelle, fièvre, mal de tête, douleur musculaire, maux de dos, ganglions enflés, frissons, fatigue, et c'est les éruptions cutanées là, qui sont peut-être visuellement c'est plus impressionnant. Dans le cas de l'Espagne, on a ciblé un endroit particulier, un sauna. Sauna pour des rencontres homosexuelles, le El Paraiso, au cœur de la ville, qui a été fermé parce qu'on croit qu'il est à l'origine de nombreuses infections dans la région de Madrid. Alors, chaque fois qu'on allait investiguer, on se rendait compte que c'est des gens qui se sont retrouvés dans ce sauna. Alors, on a décidé de le fermer pour l'instant et il y a enquête pour essayer de comprendre d'où vient tous ces cas un peu partout à travers le monde.
Tout savoir en 24 minutes.
Revenons chez nous avec une baisse marquée des hospitalisations quand même. On surveillait ça depuis longtemps. Et là, on a moins 69 aujourd'hui. 1493 personnes hospitalisées, 612 nouveaux cas, 12 décès.
Par contre, t'as vu que ça monte en Nouvelle-Angleterre. Hein? Philadelphie, là, il parle le nombre de cas hospitalisés. Le nombre de cas a fortement augmenté dans la région de Philadelphie. Mais le nombre de cas dans les hôpitaux de Philadelphie a comme doublé en pas longtemps, en 2-3 semaines, là.
Bon, faut dire qu'ils ont eu la même vague Omicron qu'on a eu aussi, la vaccination.
C'est très difficile de parler des vagues aux États-Unis parce que, je veux dire, il y a eu une grosse vague aux États-Unis qui a duré quasiment un an et demi, là. Je veux dire, ça a monté. Oui,
ça a monté dans un état, ça baissait dans un autre.
Ah ouais, mais ça a monté essentiellement à l'automne 2020. Tu sais, ça avait baissé durant l'été. T'as eu la première vague, ça a baissé durant l'été comme nous, puis c'est revenu à l'automne. Mais eux, ça a plus jamais arrêté, là. Là, c'est eu des cas, ça n'a pas de bon sens. Là. Ils sont restés, je sais pas combien de temps, en haut de
1000 morts par jour.
Ben ouais, c'est pas d'allure. Là, ça avait baissé quand même. Ça avait baissé beaucoup là, depuis l'hiver, depuis le printemps. Mais ça remonte déjà. Là.
Et pour ce qui est de la santé, on apprenait aujourd'hui que le ministre actuel de la Santé, le ministre Christian Dubé, allait se présenter à nouveau aux prochaines élections. Lui qui, entre autres, le confirmait, le collègue d'LCN, ce matin, disant qu'il l'avait, qu'il n'a pas douté. Des questions quand même familière. Tu as déjà vécu un peu ces débats-là
Christian Dubé, là, il est comme indépendant de fortune, puis il a début de la soixantaine.
65 ans.
Ouais, 65 ans. Fait que, tu sais.
Faut que t'aimes ça.
Ouais. Puis là, ministre de la Santé, t'as vu ce job-là, toi? C'est la pire job au Québec, là. T'as rien de pire qu'être ministre de la Santé.
En même temps, c'est peut-être l'endroit où tu peux le plus.
Influencer.
Tu sais qu'il y a des choses à faire. Tu peux être utile.
Je pense que c'est plus le fun d'être ministre des Finances ou de l'Économie que de la Santé, là.
Ouais.
Tu sais, moi, je suis convaincu qu'il y a réfléchi. Puis là, il reste quand tu as 65 ans, tu dis, tu sais jamais, est-ce que ta propre, au-delà du ministère de la Santé, là, ta propre santé, lui, il a l'air vraiment personne avec une bonne santé, je pense qu'il y a un équilibre de vie,
ouais.
Il fait du sport, tout ça, mais, c'est quand même, les années passent. Dis-moi, mettons qu'il veut voyager, tu sais, t'as eu
4 ans, là, il se retrouve à presque 70
ans. Tu rajoutes 4 ans. Mais tu rajoutes sur le plan de ta santé, mon avis, physique et psychologique. Là, ouais, tu rajoutes deux ans par année. Fait que tu sais, c'est que tout le monde voit ça comme un automatisme, là, mais c'est pas vrai. Là. Sur le plan humain, puis il y a une conjointe, puis une vie, puis des enfants. Fait que c'est sûr que la discussion est venue. Mais en même temps, il est proche de François. Écoute, avec la pandémie, ils étaient déjà deux amis, là. Mais avec la pandémie, proche de François Legault, en symbiose avec François Legault.
On comprend que François Legault, il pousse pas pour qu'il s'en aille.
Eh boy, quand il a confirmé à François Legault là, qu'il revenait. Pour un autre mandat, Legault devait être vraiment soulagé. Là.
D'ailleurs, je vous fais entendre un extrait de Christian Dubé qui explique entre autres ça, la discussion avec ses proches sur la décision qui est à prendre.
J'ai eu ces bonnes discussions-là avec ma famille qui m'appuie particulièrement depuis deux ans. Je voulais être certain que tout le monde était conscient de la hauteur de la montagne. J'ai cet appui-là. Et maintenant, depuis qu'on a déposé le plan santé, j'ai senti beaucoup d'encouragement des Québécois qu'il fallait continuer puis de mettre en place ce qu'on a commencé à faire.
Bon. Ce que je me demande, est-ce qu'il y a... J'ai déjà vu ça dans le passé, puis personne ne va jamais nous le dire, là, c'est secret. Même leurs employés, leurs directeurs de cabinet ne savent pas des fois. Mais est-ce qu'il y a un deal personnel avec François Legault du genre, là, François, tu me laisses pas 4 ans en santé, là. J'essaie, mi-mandat, je reviens, je donne un coup de collier. Si on est réélu, parce qu'il faut d'abord gagner l'élection, si on est réélu, OK, je repogne la santé, j'essaie de compléter ma réforme. Mais à mi-mandat, là,
tu m'en vas où? Ben, c'est où qui est, mettons, confortable, à part le ministère du tourisme?
Les ministères, le fun, là, c'est des ministères économiques, là, je veux dire, tu sais, mettons, lui, là, il a passé sa vie dans le monde des affaires. Tu racontes des gens en affaires, il arrête pas de te présenter des projets. De temps en temps, tu sais, des dossiers plus difficiles, dans une entreprise, il est sur le bord de la faillite, il y a une entreprise qui menace de quitter, t'en as un autre pays, il essaie de négocier, si on vous donnait telle aide, mais... C'est Vincent, c'est moins tough que la santé, là. C'est pas tout le temps là, des syndicats qui te demandent toutes sortes d'affaires impossibles. Tu sais, ça déborde des urgences. Pense-y, t'es ministre de la Santé, là, le matin, t'as revue de presse. 8 hôpitaux que ça déborde à l'urgence, un mort d'une maladie. C'est toutes des nouvelles épouvantables. Là, il y a un monsieur qui est mort, il y a ici un transport à l'hôpital qui a pas bien été.
Il y a un médicament qu'on refuse ici, qu'on donne en Ontario.
Qu'on donne ailleurs. Si, ça arrête jamais, là. Ça arrête jamais, là. Toutes sortes d'affaires épouvantables. Tu joues toujours avec la mort, là.
Oui.
Tu sais,
mais là, c'est là, toujours de l'autre bord, ça dit, j'avais des morts sans conscience, parce que là, tu...
Alors qu'à l'économie, hein? Des pertes d'emploi, ça... Là, t'as même plus le problème. À l'époque, quand t'avais 13% de chômage, tu pouvais avoir des désespoirs, des familles en faillite, que les enfants pouvaient plus s'habiller à propre pour l'école parce que la famille était trop pauvre, parce qu'ils avaient perdu leur emploi, l'usine a fermé. Mais là, maintenant, le ministre de l'économie, c'est le... Fait que, tu sais, ministre des ressources naturelles, de l'énergie au Québec, t'as Hydro-Québec, on a plein de richesses, des mines, des belles ressources. Bon, faut que tu fasses attention à l'environnement. T'as des enjeux partout. C'est difficile, la politique. Mais il y a rien de comparable à la santé. Puis, c'est la moitié du budget du gouvernement. C'est gros, c'est ingérable. T'as toutes sortes de fonctionnaires qui veulent pas te dire, qui ont juste dans la tête de pas te dire la vérité. Des hauts fonctionnaires qui disent, bon, là, tabarouette, moi, ça va mal dans mon département. Faudrait pas que le ministre
s'en rende compte.
Que le ministre s'en rende compte. Fait qu'il se fend de la face pour que tu saches pas exactement ce qui se passe. Alors que toi, faut que tu saches ce qui se passe si tu veux l'arranger, si tu veux le corriger, là.
Tu nous donnes le goût.
Moi,
tu
là,
donnes le goût.
Ça, sincèrement, là, demain matin, tu me dis, Mario, là, tu passes même pas par une élection, rien. Tu retournes en politique de ministre de la Santé, puis je veux pas. Aucun intérêt. Je veux dire, c'est même plus la politique de dire c'est un ministère tue-monde. En fait, peut-être qu'un jour, il faudra qu'on se questionne. Est-ce qu'il faut éclater tout ça et avoir trois ministres, là, tu sais? C'est un vraiment ministre juste du réseau hospitalier ou, tu sais, séparer la bébite un peu. 50% enlève la dette, là, parce que là, t'as un paiement d'intérêt sur la dette, là, enlève ça, là. Oui. Prends ce qu'on appelle les dépenses du gouvernement, les dépenses de programme, les dépenses, vraiment les vraies dépenses, pas l'intérêt sur la dette, c'est à moitié. La moitié des dépenses de programme du gouvernement, essentiellement. Fin chiffron, là, la moitié des dépenses de programme du gouvernement. Et ce ministre-là, il en gère autant que tous les autres additionnés. C'est fou, là.
Bon.
Puis en plus, il gère ce qu'il y a de plus sensible. Il joue avec la mort, la maladie, la difficulté, la souffrance.
Ouais, peut-être demain, si Yannick va dire, j'ai écouté Mario Dumont, finalement.
Ouais.
Finalement, ça me tente plus.
J'ai changé d'idée. Oui. Non, puis si encore, tu disais, bon, ben, c'est tout le monde est main dans la main, là. Les syndicats d'employés, les syndicats de docteurs, tout oui. le monde tire dans la même direction pour essayer de soigner les malades du Québec. Hey, c'est tout le contraire, là. Des guerres de pouvoir, chacun tire la couverte sur son bord, la couverte est déchirée de 56 places. Tout le monde a besoin de plus d'argent, il n'a jamais assez.
Oui, puis si t'en donnes, ils sont pas contents. Hein. Ah, tu donnes des primes.
Tu donnes des primes, puis tu dis, t'as pas donné de la bonne façon, t'as pas consulté le syndicat. Hey, quand t'en veux-tu, des maux de tête?
C'est les policiers de Laval qui ont eu des maux de tête, eux, dans les dernières heures.
Ouais, c'est juste une affaire épouvantable.
Curieuse histoire. Dans une école secondaire de Laval. Donc, c'est l'école Horizon Jeunesse qui faisait un événement. Mmh. Il y avait à peu près 150-200 élèves qui faisaient une activité célébrer la semaine interculturelle.
Alors, il y avait un beau jeudi après-midi de congé.
Il fait beau, on a des activités. Et ça s'est mis à déborder. Alors, il y a eu des élèves qui ont commencé à lancer des branches sur des véhicules de police. Et ensuite, ça s'est comme enflammé. Les jeunes qui sont mis à donner des coups de pied, cracher sur les véhicules, gaz lacrymogène. Écoute, la mini-émeute qui s'est déclenchée. Je vais entendre d'ailleurs un petit extrait pour faire entendre l'ambiance à ce moment-là. Donc, plusieurs véhicules de police endommagés. Un policier qui a été également obligé d'utiliser son poivre de Cayenne, dit-on, comme geste préventif et défensif. Là, une jeune femme qui aurait été atteinte du poivre, mais sans être blessée. Plusieurs méfaits. Alors, il y a enquête pour comprendre ce qui s'est passé. Du côté de l'école, on dit que certains élèves ont festoyé de façon inappropriée. Ça crée un débordement.
Du côté de l'école, on a l'air fou, là. Parce que, tu sais, les jeunes sont à l'école, ils sont supposés être encadrés de un. Deux, correct des activités, mais tu sais, c'est supposé être à l'école. Là, finalement, c'est une activité. Là, t'as perdu le contrôle là-dessus, ça prend la police. T'es jeune de ton école, frappe ces chars de police à coups de pied. Moi, je trouve que pour l'école, t'as l'air tata, là.
Mais en fait, ils ont dit qu'il y avait un retour à l'école avec les élèves concernés pour promouvoir la civilité, la responsabilité citoyenne et les comportements attendus dans une société démocratique.
Ça, c'est ce qu'ils faisaient aujourd'hui, là, au lendemain.
Après. Bon. J'espère qu'ils vont étudier. Il faudrait leur faire un petit examen.
Répète-moi donc les mots, là.
C'est le promouvoir la civilité, la responsabilité citoyenne et les comportements attendus dans une société démocratique.
Je comprends, mais là, pour passer ces jolis messages, là, si bien formulés,
oui.
C'est des sanctions, des pénalités, des suspensions, des discussions dans le bureau du directeur. Puis
des copies, là.
Ouais, dans ma tête, c'est ça, là.
Oui. C'est pas un beau petit cours pour t'expliquer ce qu'on attend de toi. Je pense qu'ils s'en doutent bien, tous les jeunes, que t'es pas supposé sauter sur un char de police puis cracher sur un policier.
Même si ça n'a pas été dit comme ça dans un cours à l'école.
Je pense juste que ça arrive un peu l'effet de gang. On voit le QI baisse des fois quand ça part. On le voit avec des émeutes du Canadien ou d'autres affaires.
Des fois, ça te prend des petites sanctions pour te remettre du plomb dans la tête un peu et que tu t'en souviennes.
Parlons de Huawei maintenant, qui a réagi. A fait Huawei et Pékin, donc la Chine, les deux ont réagi à cette décision hier du Canada de finalement refuser le déploiement de la 5G par l'entreprise chinoise. Donc du côté de Huawei, on s'est dit, on parlait d'une décision politique regrettable, disant que ce n'est les raisons de cybersécurité n'étaient pas justifiées dans ce dossier-là, disant que l'équipement de Huawei avait été régulièrement examiné par le gouvernement, des agences de sécurité aussi, selon des normes strictes. Bon, on se souvient que le gouvernement a quand même tardé dans cette décision-là, repoussée entre autres par les tensions immenses avec la Chine après l'arrestation de Meng Wanzhou. Pékin aussi qui a réagi disant que la Chine s'opposait fermement à cette décision qui était sans fondement. Un porte-parole donc de la diplomatie chinoise qui parlait que le pays allait prendre toutes les mesures nécessaires pour défendre les entreprises chinoises, mais sans nommer ces mesures. Alors, on sera peut-être
moi,
plus dans les prochains jours.
Ça serait étonnant là, qu'il n'y ait pas des représailles contre le Canada.
Donc, on le saura sous peu. Le bracelet anti-rapprochement est officiellement entré en vigueur au Québec, à un endroit bien précis, à Québec. On sait que c'est un pré-projet, là, ce bracelet qui permet d'avertir une victime que son agresseur, donc on parle de dossier de violence conjugale, est proche, là, donc dans un certain rayon. La ministre de la Sécurité, Geneviève Guilbeault, en avait déjà parlé à plusieurs reprises, voyant ça comme une véritable révolution. Et là, on commence ce pré-projet avec l'établissement de détention de Québec, là, anciennement à prison d'Orsainville, et donc le pour la Ville de Québec uniquement, service de police de la Ville de Québec, palais de justice de Québec, et le déploiement va se faire graduellement dans le reste de la province jusqu'à l'automne 2023. On se souvient qu'on avait lancé ce projet-là dans la suite des nombreux cas de féminicide qui avaient été un véritable fléau en 2021. Geneviève Guilbeault, donc, qui était au l'établissement aujourd'hui de détention de Québec pour l'annoncer. On peut écouter un extrait.
Ce bracelet-là, c'est révolutionnaire. Quand on regarde d'abord factuellement comment ça a tourné dans les 6 autres pays, c'est que du positif. Puis eux aussi, ils ont eu des petits enjeux, des ajustements, c'est sûr. Là, tout ce qui est nouveau doit s'ajuster, puis on doit l'adapter à notre système. Mais au final, coût-bénéfice extrêmement rentable dans les 6 autres pays. Donc, il n'y a aucune raison que ça ne fasse pas le même effet ici.
Puis après une année où on a eu autant de féminicides, là, je pense que il fallait poser des gestes. Mais moi, je suis vraiment pour ça. Puis je m'étais même, tu sais, je suis pas en train de prendre le crédit, mais tu sais, c'est des petites gouttes d'eau qu'on additionne. À un moment donné, ça fait un verre. Là. Mais c'était un député du sud de la France, je pense, de la région du Cahors. Là. Les gens connaissent plus le vin que le député du Cahors, mais qui avait poussé l'idée, lui, en France, puis l'idée avait avancé. Et je me souviens, je l'avais reçu, il avait accepté de nous parler. On avait couru après un petit peu, on avait accepté de nous parler à LCN, mais de nous raconter, là, vraiment, après un des féminicides qu'on avait vécu ici, puis de nous raconter un peu comment ça avait fonctionné là-bas, puis comment l'idée avait fait son chemin, puis etc., etc. Là, et c'était devenu une pratique. Je pense qu'il était à ce moment-là en expérience pilote, là, aussi en France, mais fait longtemps moi, que je m'intéresse à ce besoin, parce que les juges donnent des directives, pas le droit de t'approcher en dedans de tant de kilomètres, là, mais là, mener la femme est assassinée, puis tu dis, ah ben, il n'y avait pas le droit de s'approcher.
Ouais. Non, et il y en a qui retournent et retournent très souvent. Et là, quand même, je trouve le système est assez brillant, parce qu'il y a une zone de préalerte. D'ailleurs, il faut que la victime soit consentante d'avoir cet appareil-là. Enfin, elle, c'est sur son téléphone. L'autre, c'est à la cheville. Et surveillée 24 heures sur 24 par une compagnie privée. Et lorsqu'il entre dans une certaine zone de préalerte, on l'appelle. On appelle le monsieur, là, t'es dans une zone de préalerte. Faudrait que tu ressortes de là parce que sinon, on va enclencher d'autres procédures. Et si la personne, donc,
ne répond pas ou
entre dans la zone d'alerte, ben là, les policiers sont envoyés automatiquement. Alors, c'est le principe qui sera testé. Parlons du dossier ukrainien. Maintenant, en fait, ben, des conséquences de tout ça pour la Finlande. On sait qu'il a officiellement appliqué pour s'inclure dans, l'OTAN. Mais la livraison de gaz naturel russe sera suspendue à compter de demain matin, c'est ce que a confirmé à la fois le groupe public finlandais, là, énergétique, et le géant russe Gazprom. Ce qu'on dit chez Gazprom, c'est qu'on n'a pas reçu les paiements en roubles, ce qui était demandé et qui a été refusé par les pays européens jusqu'à maintenant. Faut dire, le gaz représente en Finlande 8% uniquement de l'énergie consommée, mais ce 8%-là...
Il vient presque tout de la Russie.
Ouais, presque uniquement de la Russie. Mais on dit chez les Finlandais qu'on se prépare soigneusement à cette situation. Là. On a fait des ententes d'ailleurs avec l'Estonie là, pour un terminal de regazification du gaz naturel liquéfié, donc un terminal flottant qui pourra aller compenser pour cette perte-là. On sait que la Pologne, la Bulgarie s'étaient déjà fait couper le gaz par la Russie. Alors c'est une décision qui a été confirmée aujourd'hui. Et je termine, Mario, avec quand même un incident gênant pour les Secret Service, la sécurité de Joe Biden. Deux agents des Secret Service qui étaient dans l'équipe pour préparer l'arrivée de Joe Biden en Asie ont été impliqués dans une bagarre avec un chauffeur de taxi après une tournée des bars à Séoul.
Bravo.
Tu sais, ouais, bravo certains. Il y a eu plainte, enquête policière à Séoul, pas d'accusation. Mais on a remis les deux dans un avion, puis vous retournez à Washington.
À maison.
Alors, tu sais, quand tu représentes l'équipe, l'Advance Team, là, avant le président des États-Unis...
Ils sont battus comme chauffeur de taxi.
Ouais. Puis là, ben c'est ça. Je pense qu'ils vont peut-être rétrograder dans les prochaines semaines. C'est pas les premiers incidents qui touchent les Secret Service à l'international. Chaque fois, c'est assez gênant, là. T'es supposé.
Je pense plus qu'ils vont s'occuper de la sécurité du président.
Ils vont peut-être tomber député local.
Ouais, c'est ça. Résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.